Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous allons maintenant dans le traité sur le mariage de Saint Thomas d'Aquin. Donc, question 41 à 68 du supplément, nous allons commencer à étudier un peu les différents empêchements. Je vais vous donner surtout des règles générales. J'ai déjà expliqué à la fin du dernier cours donc les différents empêchements tels qu'ils existent dans l'Église catholique, qui rendent un mariage soit illicite, soit invalide. Illicite, c'est un empêchement prohibant, et invalide, c'est un empêchement dirimant. J'ai déjà expliqué. Je vais aller assez vite, encore une fois, parce que là, c'est une partie très canonique, et je n'ai pas l'intention de vous donner un cours de droit canonique. Cependant, je voudrais vous donner les bases, si vous voulez, pour être sûr que vous ne vous faites pas rouler par des nouvelles idées qui commencent à malheureusement à pénétrer, y compris dans la tradition, y compris malheureusement dans la tradition cédévacantiste, puisqu'il y a des gens qui prétendent qu'on peut annuler un mariage. Donc je vous rappelle la règle absolue de l'Église, c'est tellement important que c'est passé dans le code de droit canonique, et c'est le code de droit canonique 1118 qui précise donc que un mariage valide ratifié et consommé, ne peut être dissous, bien sûr un mariage valide entre deux catholiques, ratifié et consommé, ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause sauf la mort. Subizarreta va même encore plus loin, donc le grand théologien qui a écrit un excellent livre de théologie dogmatique, c'était l'ancien archevêque de Cuba. Il précise donc que tout mariage est de droit naturel intrinsèquement indissoluble. Tout mariage valide, bien entendu. Donc, je vous rappelle le code de droit canonique. J'ai déjà cité ces canons. Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui obtiennent une fermeté particulière dans le mariage chrétien à cause du sacrement. Donc, c'est le code de droit canonique, canon numéro 1013. Donc, il faut que les choses soient claires. Malheureusement, beaucoup de gens actuellement pensent que un mariage peut être plus ou moins annulé. Alors, on entend beaucoup de bêtises sur ce sujet. Alors, ceux qui veulent plus de renseignements là-dessus, donc j'ai déjà traité un peu de tout ça, je vous l'ai déjà dit, dans le grand cours de catéchisme pour adultes que j'ai placé sur mon site Dame Marie. Donc vous avez toutes les 110 conférences de catéchisme pour adultes, audio, chaque conférence faisant à peu près 1h25, 1h30. Il y a tout un cours sur le mariage très complet. Je crois qu'il y a 6 ou 7 conférences, plus 6 ou 7 conférences des préparations au mariage. Pour les préparations au mariage, j'ai déjà dit tout ça. En plus de ça, vous avez sur le site également une lettre, la lettre numéro 67, dans les lettres doctrinales, les annulations de mariage, que je vais reprendre rapidement maintenant, annulation de mariage, une grande supercherie. Et vous avez aussi la conférence doctrinale qui correspond. Donc, reportez-vous à ces choses-là pour avoir plus de détails, parce que je n'ai pas le temps de revenir constamment sur les choses que j'ai déjà expliquées. Alors, précisons trois choses importantes, ces trois sources de confusion, j'ai remarqué, qui sont très fréquentes, y compris chez les traditionalistes et malheureusement y compris chez les catholiques de tradition célibacantiste. Je ne donnerai pas de nom, bien entendu, une personne connue célibacantiste qui m'a même dit: vous n'avez pas le droit d'enseigner qu'un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune puissance au ciel et sur la terre. Donc j'ai dû faire remarquer à cette personne, qui manifestement avait besoin de revoir un peu son catéchisme, que cette phrase était prise directement dans le manuel de théologie dogmatique de Zubizarreta, qui est d'avant le concile, et que ça correspondait tout simplement à l'enseignement catholique, notamment au code de droit canonique 1118. C'est des choses qui ne peuvent pas être changées. Pourquoi? Parce que de droit naturel, encore une fois, un mariage est indissoluble. Qui plus est, bien sûr, le sacrement de mariage entre deux catholiques. Alors, première source de confusion, beaucoup de catholiques pensent qu'un mariage pourrait être annulé comme d'un coup de baguette magique par un empêchement d'irrimant. C'est ce que j'entends souvent. Monsieur l'abbé, vous avez expliqué qu'un empêchement d'irrimant annule un mariage. Un empêchement d'irrimant annule pas de mariage du tout. Un empêchement d'irrimant empêche un mariage. Donc, un empêchement d'irrimant n'annule pas un mariage existant. Un empêchement d'irrimant, comme l'empêchement de lien par exemple, ou l'empêchement d'âge, est un empêchement qui empêche le mariage. Donc, il n'y a pas une annulation de mariage à cause d'un empêchement d'irrimant, puisqu'il n'y a pas de mariage du tout. On ne peut pas annuler quelque chose qui n'existe pas. Donc, un empêchement d'irrimant, c'est quelque chose qui se place en amont d'un mariage éventuel. S'il y a un empêchement d'irrimant, le mariage est impossible. Et si les gens se marient avec un empêchement d'irrimant sans obtenir les dispenses nécessaires, ce mariage est absolument invalide. Donc, ce n'est pas une annulation de quelque chose qui était valide. Quand on parle d'annulation de mariage, ça veut dire que le mariage était d'abord valide, puis est devenu invalide. Ça, c'est un mariage valide entre deux catholiques, encore une fois, ne peut être annulé par aucune puissance au ciel et sur la terre. Ça veut dire que Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage valide, ratifié et consommé entre deux catholiques. Alors voilà ce que je disais dans la lettre numéro 67 sur les annulations de mariage. Je reprends rapidement ça parce que comme ça m'évitera de devoir me répéter constamment pendant l'explication du cours de Saint Thomas. De personnes qui se sont mariées, entre guillemets, alors qu'il existait pour l'un des deux contractants un lien antérieur valide, par exemple, un empêchement d'irrimant de lien à cause de l'existence d'un mariage valide précédent, ne sont en fait pas mariées. Malgré toutes les apparences, soit à leurs yeux, soit aux yeux des autres, leur mariage n'a jamais existé. Ces personnes se croyaient peut-être mariées femmes, mais ne l'étaient pas devant Dieu, devant l'Église. Ce prétendu mariage est nul parce qu'au moment où il a été contracté, il y avait une cause, c'est-à-dire un lien précédent toujours valide, qui le rendait invalide. L'Église n'annule donc pas un tel mariage, ne fait que constater qu'il n'a jamais existé. Bon. Deuxième erreur qu'on entend souvent, deuxième source de confusion. Beaucoup de gens pensent qu'un mariage qui est valide au début deviendrait invalide au bout d'un certain temps si les conditions essentielles du contrat, l'unité, l'indissolubilité, l'acceptation des enfants ne sont pas voulues par l'un des contractants. Je vous ai déjà expliqué que pour qu'un mariage soit valide sur le plan naturel et sur le plan surnaturel, pour le sacrement c'est encore plus vrai, il y a trois conditions essentielles pour que le contrat soit valide. Il faut l'acceptation des enfants, l'indissolubilité et l'unité. J'y reviens pas, j'ai déjà expliqué tout ça plusieurs fois. Lorsque quelqu'un se marie, si les conditions du contrat sont là, il y a mariage. Si une des conditions substantielles du contrat, soit l'acceptation des enfants, soit l'indissolubilité, soit l'unité, n'existe pas dans l'intention des contractants, le contrat est nul, il n'y a pas de mariage. Bon. Si les conditions existent, le mariage est entre deux, supposant que tout est fait normalement, le mariage entre deux catholiques baptisés est valide devant Dieu et devant les hommes. Ces personnes sont mariées validement, unies par des liens indissolubles, lien qui ne peut être dissous que par la mort. Bon. S'il est valide le jour du mariage, ce mariage est valide durant toute la période de vie des deux contractants, au moins d'un des deux contractants. Lorsqu'un des deux contractants meurt, le deuxième se retrouve libre de se remarier s'il le désire. Donc il ne faut pas croire qu'un mariage peut être valide le jour du mariage, puis invalide le lendemain, puis de nouveau valide, puis invalide, puis de nouveau. Ou c'est valide ou ça ne l'est pas. S'il est valide, il y a un lien matrimonial qui ne peut être dissous que par l'amour. Troisième source de confusion, c'est ce qu'on appelle l'argument du manque de maturité au moment du mariage religieux, qui est très souvent invoqué aujourd'hui, notamment parce que dans l'Église de Vatican II, dans le nouveau code de droit canonique établi par Wojtyla, par Jean-Paul II en 1983, ils acceptent les annulations de mariage pour manque de maturité. Cette condition n'est pas acceptable pour la plupart des cas, car l'immense majorité des gens qui se marient à l'église savent très bien ce qu'ils font. Ils se marient comme tout le monde, avec intention très claire de rester ensemble dans la fidélité pour toute la vie, pour fonder une famille. Donc, l'argument d'un manque de maturité n'est pas recevable. S'il fallait annuler tous les mariages de gens qui prétendent qu'ils manquaient de maturité au moment de leur mariage, on pourrait en annuler la plupart des mariages de nos fidèles. Hein? Il est évident qu'on manque tous, que tous les gens mariés manquaient un peu tous de maturité. On peut toujours dire qu'on manquait un peu de maturité, même si on se marie à 25 ans. On mûrit avec l'âge. Du moment que les gens acceptent les conditions du contrat, j'ai déjà expliqué, le mariage est valide. Donc, Monseigneur Lefebvre lui-même nous disait, je me rappelle, il nous faisait des remarques à propos du nouveau code de droit canonique en nous disant, mais ces annulations de mariage par manque, à cause d'un manque de maturité, rend ces annulations absolument nulles. Donc le mariage existe toujours. Or, l'immense majorité des annulations de mariage qui sont accordées aujourd'hui dans l'Église de Vatican II sont accordées justement à cause de cette raison de manque de maturité. Alors faites extrêmement attention parce que on a des petits malins comme ça qui j'ai eu plusieurs cas. Des gens qui se marient, qui ne sont pas très sérieux, c'est pas partie de nos fidèles sérieux, mais enfin ça peut arriver en fidèle, malheureusement, j'ai eu plusieurs cas comme ça, au moins un dont j'ai tout à fait en mémoire, qui se marient en disant, bon, ben, on se marie devant l'église traditionnelle, devant le prêtre de la tradition, bon, mais si ça marche pas, on ira se démarier devant l'église de Vatican II, en invoquant un manque de maturité au moment du mariage, et puis on se remariera de nouveau dans l'église. Bon. C'est absolument impossible. Je vous l'ai déjà dit, des gens qui ont été démariés comme ça sont en fait toujours mariés avec leur premier époux, puisque tant que l'époux est vivant, seule la mort peut rompre ce contrat. Alors, il existe des cas canoniques, donc encore une fois, je ne vous donne pas un cours de droit canonique, donc je ne vais pas donner tous les détails, vous avez plus de détails dans la conférence qui correspond sur le site à la lettre numéro 67, donc sur annulation entre guillemets de mariage, une grande supercherie. Je vous rappelle simplement canoniquement dès que les cas où il peut y avoir une véritable annulation de mariage. Il y a quelques cas canoniques, mais très précis. Je vais vous les donner. Je rappelle la règle générale. Dans le cas d'un mariage valide et consommé entre deux baptisés, seule la mort de l'un des conjoints rompt le lien sacré et rend à l'époux survivant la liberté de contracter de nouvelles noces. Si vous avez été marié, même si vous avez fait une grosse erreur, vous venez me voir en me disant, Monsieur l'abbé, je pensais qu'elle était une bonne cuisinière, Monsieur l'abbé, j'ai pensé qu'elle avait un caractère doux, gentil et suave, parce qu'elle était comme ça pendant que j'étais fiancé avec elle. Maintenant que je suis marié, j'ai découvert qu'elle ne sait pas faire la cuisine, elle brûle tout ce qu'elle cuisine, elle a un caractère de cochon. Bon, Monsieur l'abbé, je souhaite avoir une annulation de mariage et me remarier et faire les choses correctement la deuxième fois. Monsieur, je suis désolé, quand vous êtes marié devant l'Église avec intention d'avoir des enfants, avec intention d'accepter l'unité et l'indissolubilité du mariage, votre mariage est valide. Vous n'allez pas étrangler votre épouse, vous allez porter votre croix tous les deux, qu'un, avec la grâce du bon Dieu, vous allez vous confesser souvent, vous allez faire pénitence, vous allez peut-être faire une retraite pour essayer de vous renforcer un petit peu spirituellement tous les deux, et vous allez porter votre croix ensemble. Donc, ne venez pas vous demander à ce qu'on vous démarie, ce n'est pas possible, puisque ce contrat, je n'ai aucun pouvoir sur lui. Dieu lui-même ne peut pas rompre ce contrat. Ah, monsieur l'abbé, j'ai entendu dire que dans la fraternité sacerdotale Saint-Pilice ou dans l'église de Vatican II, c'est la même chose aujourd'hui, vous comprenez, il paraît qu'on peut se démarier et se remarier après. Eh bien, écoutez, allez dans l'église de Vatican II, mais dans l'église catholique, c'est impossible. Le problème, c'est que le jour où vous allez mourir, vous allez passer en jugement devant le Dieu d'église catholique et pas devant le Dieu d'église de Vatican II. Donc il ne faut pas oublier ça. Hein. Alors, il y a quelques cas canoniques, je vous les explique rapidement. Je ne vais pas vraiment vous les expliquer parce que ce n'est pas le but du cours. Encore une fois, il y a des répétitions selon les différents cours que je donne. Il y a trois cas essentiels. Le premier, c'est ce qu'on appelle. Le premier, c'est celui-là. Les vœux solennels dans le cas d'un mariage valide mais non consommé entre deux baptisés ou entre un baptisé et un infidèle. C'est-à-dire que si deux personnes sont validement mariées, mariage, mais avec un mariage non consommé, ce qui est très rare, c'est-à-dire un mariage où il n'y a jamais eu de relation physique entre les deux époux. En cas de, c'est un des cas exceptionnels, si l'un des deux époux, alors que le mariage n'a jamais été consommé physiquement, avec des dispenses spéciales, rentre dans la vie religieuse avec l'accord de son époux ou son épouse et fait des vœux solennels. Le jour de ces vœux solennels, le lien qui existait avec son époux légitime est rompu. Donc c'est le cas des vœux solennels dans le cas d'un mariage valide mais non consommé entre deux baptisés, ou un baptisé et un infidèle. Bon. C'est le code de droit canonique numéro 1119. Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous de plein droit par la profession religieuse solennelle à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre, une fois que la personne est rentrée avec l'accord du conjoint dans la vie religieuse. Non. Donc, le Concile de Trente dit la même chose. Celui qui dit qu'un mariage ratifié et non consommé n'est pas dissous par la profession religieuse solennelle de l'un des deux ou l'autre conjoint, qu'il soit anathème. Donc ça, c'est de foi. Attention. Alors, deuxième cas. Une dispense du pape dans le cas d'un mariage valide, non consommé, entre deux baptisés, ou un baptisé et un infidèle. Bon. Alors là, encore une fois, attention, c'est un cas spécial, donc toujours pareil, avec un mariage véritable, ratifié, mais non consommé, encore une fois, pas de relation conjugale entre les deux époux légitimes après le mariage. Bon, dans ce cas, le pape, et seulement le pape, peut dispenser et casser ce mariage. Le mariage, c'est le code de droit canonique 1119, le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie est baptisée, une partie non baptisée, est dissous par une dispense concédée par le siège apostolique pour une juste cause, à la demande des deux parties, de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre. Bon, c'est des cas rarissimes. Je vous fais bien remarquer que le premier cas, le deuxième cas que je viens de vous expliquer, ce sont les deux cas, des cas pour lesquels il n'y a pas de consommation du mariage. Troisième cas, qui est plus connu, il y a quatre cas en fait. Troisième cas, ce qu'on appelle le privilège paulin, qui est un privilège qui est très utile et qui était assez fréquent dans les pays de mission. Bon, pays de mission, donc c'est le code des droits canoniques 1120, je parle bien sûr du code des droits canoniques catholiques, donc de 1917, préparé par le pape Saint-Pilice, qui dit que le mariage légitime entre non baptisés, entre deux païens, même consommés, mariage naturel donc, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin. Ce privilège ne vaut pas lors d'un mariage contracté entre une partie baptisée et une partie non baptisée avec dispense de l'empêchement de disparité de culte. C'est-à-dire que cette dispense, ce qu'on appelle le privilège paulin, parce qu'il vient de Saint Paul, est une dispense possible uniquement pour un mariage naturel entre deux païens. Avant, c'est le code de droit canonique 1121 qui précise, avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit demander à la partie non baptisée si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême, ou si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur. Ces interpellations doivent toujours avoir lieu, au moins, à moins que le Saint-Siège en ait déclaré autrement. Alors, c'est le code qui est précisé, code de numéro 1124, le code de droit canonique 1124. Le conjoint fidèle, dire catholique, même si Devance, depuis son baptême, a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter un nouveau mariage avec une personne catholique et peut donc user de ce droit si par la suite le conjoint infidèle ayant changé d'attitude se sépare sans juste cause, ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur. Dans la pratique, ce sont des cas qu'on peut rencontrer que dans les pays de mission. Imaginez deux personnes ayant eu un mariage naturel entre deux païens, donc deux personnes non baptisées. L'une des deux personnes demande le baptême, est baptisée et donc devenue catholique. Mais le conjoint, qui lui reste païen, refuse la cohabitation pacifique. Il est furieux parce que son épouse, par exemple, s'est fait catholique, il ne veut plus entendre parler de ça, et il est en train de persécuter son épouse, qui est naturellement, mais validement son épouse, bien qu'il n'y ait pas de sacrement, puisqu'il n'est pas catholique. Il est furieux du baptême de son épouse et donc refuse la cohabitation pacifique. C'est la bagarre. Dans ce cas, il peut y avoir l'application du privilège paulin pour protéger la foi du nouveau converti. Dans ce cas-là, l'Église, donc ce qu'on appelle le privilège paulin, concède, avec les dispenses nécessaires bien entendu, le droit pour la partie catholique, si la cohabitation pacifique avec l'époux païen est impossible, cette partie catholique a le droit de rompre, de demander, de se remarier religieusement qu'une autre personne. C'est des choses assez fréquentes dans les pays de mission, notamment dans les pays où se pratique la polygamie. La polygamie, l'Église a été obligée de donner des règles très spéciales pour les païens convertis justement à cause de la polygamie. Je me rappelle quand j'étais au Gabon, la plupart des Gabonais sont mariés, des Gabonais païens, dont non baptisés, sont mariés civilement avec le droit d'avoir quatre épouses. Le droit d'avoir quatre épouses. Donc il y a un problème. Lorsqu'il y a une conversion dans un milieu de ce genre, monsieur par exemple veut se convertir, demande le baptême, il a quatre épouses. Ça fait trois de trop. Il est pratiquement impossible de savoir quelle est l'épouse légitime s'il y en a une, parce qu'en général il a marié les quatre ensemble. Et donc l'Église, pour arriver à dénouer un sac de nœuds pareil, a autorisé, c'était le pape Pie XI qui avait fait ça avec raison. Il avait dit, bon, dans un cas comme ça, lorsqu'un polygame qui a quatre épouses, par exemple, ou plus dans certains cas même, demande le baptême et qu'il est baptisé, il a le droit ou de garder une de ses quatre épouses ou de les renvoyer toutes les quatre et d'en choisir une autre. Catholique, si possible, c'est bien mieux. Justement, pour protéger la foi du nouveau converti. Le quatrième cas, ce qu'on appelle le privilège de Saint-Pierre, pas le privilège pétrinien, donc qui est aussi un peu très canonique, c'est le cas d'un mariage valide, même consommé. Donc les privilèges, les cas 1 et 2 que je vous ai expliqués, c'est uniquement entre personnes qui ont un mariage valide, mais non consommé. Les cas 3 et 4 sont des cas entre pour des mariages même consommé. Alors, privilège patrinien, donc c'est un cas très particulier, c'est le cas d'un mariage valide, même consommé, donc contracté soit entre un non baptisé et un baptisé en dehors de l'Église catholique, par exemple un anglican, un orthodoxe, l'anglican la haute Église ou un orthodoxe, soit entre un non baptisé et un baptisé dans l'Église catholique après dispense de l'empêchement de disparité de culte. Donc c'est des cas très particuliers. Bon, en dehors de ces quatre cas qui sont des cas d'exception, encore une fois, la règle générale s'applique. Toute personne baptisée ayant un mariage ratifié et consommé ne peut annuler son mariage que par la mort naturelle d'un des deux époux. C'est comme ça et ça ne changera jamais tant que Dieu est Dieu. Donc si vous avez été marié une première fois dans l'Église, ne cherchez pas à obtenir un nouveau mariage parce que vous allez augmenter vos croix et bien des difficultés vous attendent parce que vous allez vous retrouver en situation de concubinage si vous vous remariez, même si la fraternité sacerdotale Saint-Pilis prétend que vous pouvez le faire. Alors, nous retournons à nos moutons. Nos moutons, ils sont à la question 51 du supplément de Saint Thomas d'Aquin, donc toujours dans le traité sur le mariage, qui couvre les questions 41 à 68. Donc, question 51, sur l'empêchement d'erreur. Alors là, je vais m'arrêter un peu là-dessus parce que c'est un cas qui doit être bien clarifié dans les esprits. Beaucoup de gens, malheureusement, vous savez que le taux de divorce actuellement ne veut plus rien dire parce que la plupart des gens ne se marient même plus. Ils vivent en concubinage, même pas déclaré souvent. Donc le taux de divorce a largement, en France au moins, largement dépassé maintenant les 70%. N'oubliez pas aussi, j'ai déjà expliqué ça, mais je voudrais bien mettre les points sur les barres sur les t, qu'en soi, ce n'est pas le divorce qui est interdit, il peut y avoir des cas où la séparation est nécessaire, entre autres pour protéger les enfants. Ce qui est interdit, c'est le remariage après le divorce. Dans certains pays, ipso facto, après un certain temps de séparation physique entre les deux époux, les deux époux sont séparés parce qu'ils ne s'entendent pas du tout, parce que souvent c'est parce que un des deux époux boit, par exemple, ou est devenu extrêmement violent, donc la maman est partie avec les enfants pour protéger les enfants, c'est souvent le cas. Au bout, systématiquement, au bout d'un an ou deux, le tribunal civil accorde un divorce, déclare un divorce ipso facto. C'est malheureusement le cas dans beaucoup de pays, aux États-Unis en tout, je crois que c'était comme ça. C'est pas parce que quelqu'un est divorcé dans un cas comme ça qu'il est en état de péché mortel. Si la personne vit toute seule, elle est en état de grâce, de ce côté-là, et elle peut bien sûr utiliser les sacrements. C'est le remariage. Tant que le conjoint véritable et légitime est vivant, le remariage est mais dans une situation d'adultère. Alors, la question 51, Saint Thomas va couvrir ce qu'on appelle l'erreur. Bon, est-ce qu'il y a, quand il y a une erreur importante dans le mariage, que le mariage est invalide? Bon, le cas le plus connu, c'est un cas dans l'Écriture sainte. Le fils d'Isaac, Jacob. Jacob. S'est fait rouler par Laban. Je vais pas réexpliquer toute l'histoire, mais dans l'Écriture sainte, au livre de la Genèse. Et Jacob, au lieu d'épouser celle qu'il avait choisie, Rebecca, donc va se retrouver trompé par le père de Rebecca, Laban. Il va se retrouver avec Lia. Bon. Et donc c'était une erreur de la personne. Il n'était pas du tout d'accord pour épouser Lia, mais Rebecca. Et dans ce cas-là, évidemment, le mariage était invalide, au moins au début, sauf s'il a donné consentement. C'est ce qu'il a fait après, puisqu'à l'époque, on verra ça plus tard, à l'époque, Dieu avait autorisé la polygamie pour que la terre puisse être peuplée. Alors, voyons un petit peu ces histoires d'erreurs. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Une erreur, c'est une erreur. Si c'est une erreur au niveau du consentement, le mariage est annulé immédiatement. C'est ce que dit Saint Thomas. Puisque le consentement est nécessaire au mariage, l'erreur annule donc le mariage. Bon, l'exemple classique qu'on donne, c'est d'ailleurs l'exemple que donne Saint Thomas. C'est une personne, dit Saint Thomas, qui épouse une autre personne parce que une femme, par exemple, c'est l'exemple que donne Saint Thomas, la femme, donc une femme qui a l'intention d'épouser le fils du roi. Bon. Et puis, le mariage se fait, et puis il se rend compte à ce moment-là qu'en fin de compte, cette personne n'est pas fils de roi, qu'on lui a menti, que la personne, l'homme lui a menti, qu'il n'est pas en fait fils de roi. Et dans un cas comme ça, c'est une erreur qu'on appelle en latin une erreur avec raison. Je ne sais pas comment on traduit ça exactement en français, je ne sais même pas si le mot existe en français. C'est ce qu'on appelle l'erreur qui rebondit sur la personne. Redondance in persona. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que dit Saint Thomas sur ce sujet. Voilà ce que dit Saint Thomas. L'erreur pour annuler un mariage devra porter sur la présence ou l'absence des conditions essentielles au mariage. Bon, c'est-à-dire que s'il y a une erreur qui concerne les qualités substantielles du mariage, le mariage est tout simplement annulé. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas qu'il est annulé, il n'y a pas de mariage. Alors, pourquoi? Parce que le mariage exige deux conditions, qui est d'abord deux personnes qui s'unissent, et ensuite qu'elles se donnent l'une à l'autre le droit de réaliser la fin du mariage. Bon. L'exemple classique, c'est une personne qui manque complètement d'éducation, c'était des mariages qui arrivaient notamment au Moyen Âge. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit encore possible. Imaginez une jeune fille très innocente qui n'a pas du tout été formée par sa maman dans ce domaine et qui se marie en ignorant totalement que, il y a un aspect physique, une union physique entre les deux époux dans le mariage. Elle l'ignore totalement. Et donc, quand elle découvre ça, une fois mariée, elle a une espèce de peur panique de la relation sexuelle avec son époux légitime. Elle refuse toute relation physique avec lui parce que, elle trouve ça complètement déplacé, sale. Elle ignorait totalement qu'il y avait cette partie physique dans le mariage. Un tel mariage serait invalide et là, il pourrait y avoir le pape qui intervienne pour annuler justement ce mariage. C'est un cas que j'ai déjà expliqué. Alors, je rappelle rapidement ce que dit saint Thomas. Tout ce qui annulera le consentement annulera le mariage. Mais le consentement est un acte de volonté qui présuppose un acte d'intelligence. Si celui-ci manque, l'acte de volonté fait également défaut. Par suite, dans le cas de l'erreur qui empêche de savoir, le consentement volontaire fait défaut et le mariage n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'annulation de mariage, il n'y a pas d'existence du mariage. L'erreur, donc, peut, de par le droit naturel, annuler le mariage. Ainsi, le mariage de Jacob et de Lia ne résulta point des relations charnelles qu'ils entretinrent par erreur, mais du consentement et qu'ils échangèrent ensuite. Bon. Ensuite, l'article suivant, saint Thomas donc précise les choses. L'erreur sur la personne, comme ça le traduit saint Thomas, l'erreur sur la personne ou l'erreur sur la condition sont des empêchements, les seuls empêchements au mariage. Hein? Alors, il faut faire attention. Encore une fois, je donne un exemple un peu idiot, mais qui arrive souvent. Imaginez une personne qui reconnaît s'être complètement trompée sur le caractère ou le tempérament de son époux. Imaginez une jeune fille qui pensait que son époux était je sais pas moi, un grand colérique. Et puis ou un grand flegmatique, et puis qui se rend compte une fois marié, mais que son époux est un colérique. Comme elle est elle-même une colérique, évidemment, c'est la guerre ouverte tout le temps dans le mariage. Si au moment où ils se sont mariés, c'est marié sans condition, je me marie telle personne, je le prends tel qu'il est, le mariage est valide, attention. Mariage est valide, c'est pour ça, j'en ai déjà parlé, et j'explique longuement ces choses-là dans les préparations au mariage, il est très important que dans les préparations au mariage, pendant la période des fiançailles, c'est pour ça que les fiançailles sont importantes, pendant la période des fiançailles, que les deux futurs époux, que les deux fiancés, ne se cachent pas mutuellement des choses très importantes. Si monsieur a un gros défaut, il faut qu'elle le sache. Si mademoiselle a un gros défaut, il faut qu'il le sache. Bon, certes, il existe ce qu'on appelle le jardin secret, tout ce qui touche à la confession. Mais il y a des choses qu'il faut dire avant le mariage pour qu'on puisse en discuter, voir s'il est possible de trouver une solution. Imaginez, je donne un exemple. Imaginez un jeune homme qui a un gros problème de poisson. Bon, il a beaucoup bu, il continue de boire toujours. Il rencontre une jeune fille, bien sous tout rapport. Il commence à la fréquenter, il désire se marier avec elle, une bonne fille, bien catholique et tout, toutes les qualités possibles et imaginables. Et évidemment, pendant le temps où il est fiancé avec elle, il touche pas une goutte de vin et elle ignore tout de ce défaut qu'a son futur mari, son fiancé, un défaut grave et des graves conséquences, qu'il a un gros problème de boisson. Il le lui cache. Bon. Et elle va découvrir ça, par exemple, 6 mois, 1 an après le mariage. Ça arrive. 6 mois, 1 an après le mariage, ils sont mariés. Maintenant, il se dit, ça y est, elle est à moi, donc j'ai plus besoin de me cacher. Il reprend sa vie de poivreau et se remet à boire comme un trou. Eh bien, il est évident qu'il y a, dans un cas comme ça, il y a faute grave. Il faut que cette personne lui dise, écoute, je t'aime beaucoup, je souhaite me marier avec toi, cependant, je souhaite me marier avec vous, cependant, je veux que vous sachiez que j'ai eu dans le passé de gros problèmes de boisson. Bon, avec la grâce du bon Dieu, j'ai arrêté cette boisson, je ne bois plus, cependant, je vais avoir besoin de votre aide pour être sûr de ne pas retomber. Oui. Et j'ai remarqué que beaucoup de problèmes apparaissent comme ça parce que, justement, les deux fiancés ne se sont pas expliqués suffisamment sur ces choses essentielles avant le mariage. Est-ce que une erreur de ce genre peut rendre le mariage invalide? Je pense que c'est vraiment discutable. J'hésiterais de donner une réponse absolue. Imaginez une jeune fille qui me dise, mais monsieur l'abbé, une jeune femme qui est mariée, qui est maintenant mariée, me dit, monsieur l'abbé, j'ai épousé telle personne, j'ignorais totalement que cette personne avait un gros problème de boisson, il me l'a caché pendant toute la période des fiançailles, maintenant je suis mariée avec lui depuis 3 mois, il a commencé à boire comme un trou, je m'aperçois que c'est un énorme poivreau, je ne le savais pas, si je l'avais su avant, je ne me serais jamais, jamais, je n'aurais jamais épousé cette personne. Est-ce qu'un tel mariage est valide? Je pense, alors il faudrait vraiment s'adresser à des canonistes distingués, je ne suis pas un canoniste distingué, mais je pense que dans un cas comme ça, on se retrouve avec une erreur sur qui touche à la personne. Redundance in personam, une erreur qui touche à la personne et qui peut rendre un mariage invalide. Saint Thomas donne un deuxième exemple, ça n'est un des cas qui n'existe plus, mais il dit, imaginez une personne qui épouse une jeune fille, un homme qui épouse une jeune fille et qui ignore que cette jeune fille est en fait une esclave. Bon, il l'épouse, puis il découvre qu'elle est esclave. Bon, heureusement l'esclavage a disparu depuis longtemps, Dieu merci, enfin en principe. Est-ce qu'un tel mariage serait valide? Si cette personne dit, moi je l'aime énormément, je reste marié avec elle, je vais être marié avec elle, même bien que je sache maintenant qu'elle soit une esclave, le mariage est valide. Cependant, si c'est une erreur sous la condition, ce que Saint Thomas appelle une erreur sous la condition, c'est un empêchement au mariage, hein. Et même dans un cas comme ça, le mariage serait invalide à cause d'une erreur qui retombe sur la personne. Bon, c'est le cas est tout simple. Je désire épouser telle personne et je découvre qu'au moment du mariage, la personne avec laquelle je me suis marié n'est pas la personne avec laquelle je devais me marier. L'exemple classique qu'on donne pour expliquer un petit peu le cas canonique, imaginez deux jumelles qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Voilà. Bon. Et puis, il y a une jumelle qui s'appelle Marie et une autre jumelle qui s'appelle Céline. Voilà. Bon. Ou Sabine. Bon. Aujourd'hui, c'est la Sainte Sabine, le jour d'enregistrement de ce cours. Bon, il y a Marie et Sabine. Bon, monsieur est très amoureux de Marie. Bon, et Sabine, il aime bien, mais enfin bon, ce sera ma future belle-sœur, point final. Et puis, il monte à l'hôtel, il dit oui à la personne, en pensant qu'il dit oui à Marie, et en fait, il y a eu non pas une erreur volontaire, c'est-à-dire il s'est fait rouler, si vous voulez, et la personne à qui il a dit oui n'est pas Marie, mais Sabine. Et il se rend compte après le mariage. Mais j'ai dit oui à Marie, ah ben je ne suis pas Marie, je suis Sabine. Un tel mariage serait invalide parce que c'est une erreur sur la personne. Hein? Donc, il faut faire très attention, c'est pour ça qu'il est capital de ne pas poser des conditions de ce genre avant un mariage. Dans les enquêtes matrimoniales, on vérifie bien qu'il n'y a pas de condition qui est posée. Il peut y avoir des conditions légitimes. Par exemple, je me marie à telle personne parce que je pense que cette personne n'a jamais été mariée auparavant. Bon, il est évident que si cette personne a déjà été mariée auparavant, on se retrouve avec un empêchement de lien et donc le mariage subséquent est nul. Je vous donne l'exemple, c'est la réponse à la cinquième objection qu'on trouve dans la question numéro, je ne dis pas de bêtises, 51, l'article 2. Je vous lis la réponse à la cinquième objection qui répond bien à tout ça. L'erreur portant sur la noblesse, par exemple, n'annule pas plus le mariage que l'erreur portant sur les qualités pour la même raison. Si l'erreur sur la noblesse ou la dignité du conjoint retombe sur la personne, elle devient alors un empêchement de mariage. Si donc la femme consent à épouser telle personne déterminée, l'erreur sur la noblesse de celle-ci n'annule pas le mariage. Quand au contraire la femme avait l'intention d'épouser précisément, par exemple, le fils du roi, quel qu'il soit individuellement, quand on lui en présente une autre personne, il y a erreur sur l'identité de personne et le mariage est nul. Mais il y a des cas qui sont assez délicats. Hein. C'est pour ça qu'il faut, quand on se trouve avec des cas comme ça, je me dépêche de contacter un bon canoniste qui puisse démêler un peu les nœuds. Alors, je vais aller plus vite sur la question 52, l'empêchement de conditions serviles. Ce sont des coins d'histoire qui n'existent plus aujourd'hui, puisqu'en principe, il n'y a plus de divorce, il n'y a plus de servitude. Il n'y a plus d'esclaves, je crois qu'il n'existe pas, qu'il existe encore en Afrique, malheureusement. Et je me demande s'il n'existe pas encore dans certains cas en France. Donc Saint Thomas se pose la question de savoir si la condition servile est un empêchement de mariage. Donc je vous donne simplement les parties importantes. Le droit déclare au sujet des mariages des serfs. Donc le serf du Moyen-Âge n'était pas un esclave, attention. Il était au service du Seigneur. Mais il n'était pas considéré comme un esclave, il gardait une certaine liberté. Mais le droit déclare, dit saint Thomas, au sujet du mariage des serfs, on est au XIIIe siècle, que l'erreur touchant la condition servile est un empêchement au mariage et une cause de nullité pour le mariage déjà contracté. Pourquoi ? Parce que, d'un certain côté, le Seigneur possédait les serfs, et donc un serf n'était pas libre de se marier sans l'accord de son Seigneur. Donc le servage, dit saint Thomas, rend le serf incapable de rendre le devoir à son gré, devoir du conjugal, dès lors, comme l'impuissance qui est un empêchement quand on l'ignore, mais non pas quand on la connaît, la condition servile est un empêchement si l'autre l'ignore et n'en est pas s'il la connaît. C'est-à-dire, si la personne veut épouser telle jeune fille qu'il sait être dans une condition servile et qu'il veut l'épouser quand même, le mariage est valide. Mais s'il l'ignore, le mariage est invalide. Et saint Thomas précise, la condition servile ne devient donc empêchement de mariage que dans le cas où elle est ignorée de l'autre partie, et peu importe que celle-ci soit personne libre. Donc ce sont des cas un peu d'histoire, des cas d'école, mais je vous donne quand même le texte de saint Thomas. Donc de tels empêchements n'annulent pas le mariage quand ils sont connus, ils l'annulent seulement quand l'ignorance supprime le volontaire. Alors saint Thomas se pose la question, encore une fois c'est des questions d'école puisque c'est des cas qui n'existent plus au moins en France. Un serf peut-il contracter mariage sans le consentement de son maître? Et saint Paul, saint Thomas cite saint Paul, en Jésus-Christ il n'y a plus ni esclave ni homme libre, l'épître aux Galates. Donc les serfs jouissent donc de la même liberté que les hommes libres pour contracter mariage dans la religion de Jésus-Christ. Alors, par contre, si, c'est l'article 3 de la question 52, si un homme, après son mariage, veut se vendre comme serf, le mariage demeure. C'est absolument évident, parce que si le mariage est valide au moment du mariage, il reste valide pour toute la vie. L'homme s'appartient à lui-même puisqu'il est libre, il peut donc céder à d'autres ses droits sur lui-même. Cependant, donc saint Thomas précise, en son temps c'était comme ça, avec raison d'ailleurs, que l'épouse ne peut donc s'engager dans le servage quand son mari n'y consent pas. Ce sont des cas d'école qui n'existent plus aujourd'hui, il n'y a plus de servage. Alors, je passe sur d'autres parties canoniques, je vais rapidement couvrir ces questions en m'arrêtant simplement sur les détails qui sont importants. Est-ce que saint Thomas se pose la question de savoir si un enfant doit hériter de la condition du père? Voilà ce qu'il dit. L'enfant suit donc la mère en ce qui concerne la condition de liberté et de servitude. Quant à la dignité de la personne qui provient de la forme de l'être, l'enfant suit son père ainsi pour les honneurs, les fonctions civiles, les héritages et autre chose du même genre. Donc c'est des points qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, j'avance en m'arrêtant simplement sur les choses qui sont un peu importantes. Donc, saint Thomas va suivre ainsi tous les différents empêchements. Il va parler des différents empêchements qui étaient des empêchements canoniques de son temps. Encore une fois, je vous l'ai dit, nous suivons maintenant le code de droit canonique de saint Pélisse, dans 1917. Les choses ont été modifiées. Je vous donne quand même des parties importantes. Le vœu simple, dit saint Thomas, en citant le pape Alexandre III, est un empêchement, mais n'annule pas le mariage. Pourquoi? C'est toujours le cas actuellement, c'est l'empêchement prohibant et pas l'empêchement dirimant. Le vœu simple reste donc un obstacle au mariage, puisque celui qui se marie après l'avoir prononcé commet une faute, mais n'annule pas le mariage, car celui-ci est un vrai contrat. Donc l'obligation du vœu simple est la même que celle des fiançailles. Ainsi, le vœu simple entraîne-t-il la rupture des fiançailles? On ne peut pas se marier si on a fait un vœu de chasteté. Étant donné toutefois, dit saint Thomas, que le lien matrimonial n'impose pas l'obligation de demander le devoir conjugal, l'époux qui a prononcé le vœu ne peut, il est vrai, demander cette satisfaction sans péché, mais il peut sans péché rendre le devoir à l'épouse qui le demande une fois et qu'il s'y est d'ailleurs obligé en consommant le mariage. Donc c'est des cas un peu particuliers. Alors, le vœu solennel rompt le mariage, donc dans le cas d'un, n'oubliez pas ce que j'ai déjà expliqué, le vœu solennel peut rompre le mariage dans un cas de mariage non consommé. C'est une des exceptions dont j'ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Le mariage, par contre, le vœu solennel empêche le mariage, ce qu'on appelle l'empêchement dirimant. Cependant, si une personne était mariée et rentrait, imaginons un cas, c'est des cas qui ont existé entre autres après les guerres. Il y a eu des cas invraisemblables de personnes qui étaient mariées, qui ont perdu leur épouse, qui ont pensé avoir perdu leur épouse, ou d'épouses qui ont pensé avoir perdu leur mari, entre autres au moment des guerres. Bon, une femme, elle était une épouse, elle est mariée religieusement avec un soldat, le soldat part à la guerre et puis il revient pas. Donc au bout d'un certain temps, on ne retrouve jamais son corps, on pense qu'il est mort, et la personne, l'épouse, décide, qui n'a pas d'enfant, décide de rentrer en vie religieuse et prononce ses vœux solennels. Et puis, en fait, le mari n'était pas mort, il était prisonnier, mais il n'avait aucun contact, pouvoir de moyen de contacter sa famille pour dire qu'il était encore vivant. Et puis, plusieurs années après, il a réussi à s'évader et réapparu. Bon. Et donc, il a essayé de retrouver sa femme, et il s'est aperçu que sa femme était en vie religieuse. Enfin, était en vie religieuse. Eh bien, dans un cas comme ça, le vœu solennel est absolument invalide et le vœu solennel saute immédiatement. Il n'y a pas de vœu solennel. Pourquoi? Parce que cette personne est en fait mariée. J'ai connu un cas invraisemblable aussi, bien entendu, je me garde bien de donner un nom, des abominations pendant la guerre d'Algérie de femmes qui ont été prises par les soldats algériens qui ont été mis dans les harems des princes musulmans et qui ont passé comme ça des années et des années dans des conditions épouvantables. Et je sais qu'il y a eu un cas comme ça de deux personnes qui étaient mariées religieusement. La guerre arrive, pendant la guerre d'Algérie, la femme disparaît, donc on fait toutes les enquêtes possibles et imaginables. Et puis, des années et des années se passent, donc on présume que la femme est morte, et l'homme se remarie. Il fait le deuil de son épouse légitime, il se remarie, bien qu'il n'y avait pas de certificat de décès, parce que aucune nouvelle de sa femme pendant des années et des années, au bout de 10 ans ou 15 ans, il se remarie, a des enfants avec cette personne. Et des années et des années après, plus de 20 ou 30 ans plus tard, l'épouse légitime, qui était toujours vivante, mais qui était dans un harem, a réussi à s'échapper. Et donc elle a pu se sauver, revenir en France, et elle a essayé de retrouver son mari. Elle a découvert à ce moment-là que son mari, de bonne foi, s'était remarié avec une autre femme et qu'il avait fondé une autre famille. Eh bien, elle a fait un acte héroïque. J'avoue que c'est vraiment de l'héroïsme à un degré invraisemblable. Elle a décidé, quand elle s'est aperçue que son mari légitime, de bonne foi, s'était remarié avec fondé une autre famille, elle n'a pas manifesté à son mari légitime qu'elle était sortie du harem. Elle l'a laissé dans la bonne foi et elle n'a jamais déclaré, n'a jamais cherché à retrouver ce mari, retrouver ses enfants qui avaient été adoptés par le second mariage. Et elle a vécu comme ça, avec un héroïsme extraordinaire. Bon, ce sont des cas extrêmes, mais malheureusement, c'est des cas qui peuvent arriver. Hein. Alors, le mariage spirituel, donc, c'est le cas du vœu solennel. Le mariage spirituel, qui est conséquence des vœux solennels, que l'on contracte avec Dieu par le vœu solennel, est beaucoup plus digne que le mariage charnel. Celui-ci rend nul le mariage que l'on viendrait à contracter dans la suite. Le vœu solennel produit donc le même effet. Alors, au niveau de l'ordre, c'est la même chose. La réception de certains ordres entraîne avec elle le vœu de continence. C'est le cas des vœux du sous-diaconat, du diaconat de la prêtrise. Ces ordres, donc, sont un empêchement d'irrimer en mariage. Alors, il y a des exceptions pour les orientaux, qui peuvent user du mariage qui a précédé leur ordination, mais ne peuvent plus en contracter à nouveau. Sauf, je crois, pour les évêques orientaux, des rites catholiques orientaux, un prêtre qui vit avec femme et enfant, parce qu'ils n'ont pas le vœu de chasteté dans certaines religions orientales, dans certains rites orientaux. Un prêtre qui vit avec femme et enfant, qui est nommé évêque, doit faire vœu de chasteté, je crois. Je connais mal les rites orientaux. Donc, certainement, le précise, je pense que ça n'a pas changé, c'est toujours le cas actuellement. Les orientaux peuvent user du mariage qui a précédé leur ordination, mais ne peuvent plus en contracter un nouveau. Alors, peut-on, après le mariage, recevoir un ordre sacré de venir? Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un après son mariage, pour un homme par exemple, de rentrer en religion, soit parce que son épouse est défunte, soit parce qu'elle y consent, c'est possible en soi. Ce sont des cas limites, mais c'est des cas d'exception qui ont parfois été autorisés par l'Église. Cet homme peut donc recevoir le sacrement de l'ordre. Moi, j'ai eu un cas que j'ai bien connu, un très bon frère qui était séparé de son épouse, un laïc que je connaissais bien quand j'étais aux États-Unis, qui était séparé de son épouse depuis des années, des années, des années, et qui a voulu devenir frère, devenir religieux. Et donc il est venu me voir c'est moi qui lui donnais la soutane il y a des années, des années. Et j'en ai parlé avec mes supérieurs, on a simplement exigé, il ne devenait pas prêtre, il devenait simplement frère, mais pour pouvoir prendre la soutane, on a quand même exigé qu'il ait le consentement de son épouse. Donc il a écrit à son épouse légitime, qui vivait avec un autre homme. Lui, il vivait seul, il était un bon catholique, et il a obtenu de son épouse légitime le consentement de devenir religieux. C'est ce qui s'est passé. C'est des cas d'exception, encore une fois. Alors, je passe sur les empêchements de consanguinité, j'en ai déjà un peu parlé. Encore une fois, je ne vous donne pas un cours de droit canonique, tout simplement ce que dit Saint Thomas. Donc, la consanguinité, c'est un lien que des personnes de même origine contractent en vertu de la génération charnelle, les enfants d'une même famille avec le même sang. Le mot lien, donc, désigne le genre de consanguinité. Les mêmes personnes de même origine se rapportent au sujet de ce lien, puisque c'est entre elles que ce dernier existe. Donc, alors, j'ai déjà expliqué qu'il y a, dans certains cas, en ligne directe et en ligne collatérale, un empêchement à cause de la consanguinité. Hein. Alors, là, je passe parce que les lignes de consanguinité ne sont plus calculées de la même façon, n'étaient pas calculées de la même façon au temps de saint Thomas d'Aquin et aujourd'hui. Les choses ont un peu changé avec le code de droit canonique de saint Pie X. La consanguinité est donc un lien contracté par une communication naturelle en vertu de la génération charnelle, moyen par lequel se propage la nature. Alors, je passe là-dessus, je m'arrête simplement sur les détails. Là, ça va aller très vite parce que c'est vraiment des cas canoniques. Saint Thomas donc explique que la parenté est un empêchement de droit naturel, ce qu'on appelle la consanguinité. Pour des raisons naturelles, des raisons physiques. J'avais remarqué ça quand j'étais au Mexique. Dans le sud du Mexique, quand j'étais missionnaire au Mexique, dans le sud du Mexique. pas très loin de la frontière avec le Guatemala, dans l'état de Oaxaca, les villages étaient très isolés les uns des autres, dans des zones où il n'y avait pas de route. Le seul lien entre les villages, qui étaient distants d'à peu près 50 km, c'était des pistes infâmes quand il pleuvait, ça faisait des bourbiers impossibles. On pouvait se déplacer en pirogue, par les fleuves. Et le gros problème, c'est que ces zones étaient des zones qui avaient été habitées, qui étaient toujours habitées par des peuplades qui descendaient des anciennes tribus aztèques. Et le problème, c'est que chaque village avait une langue différente. Il y avait des tas d'idiomes. C'était pas vraiment des langues, c'était des idiomes. Et donc, il y avait un petit village avec une centaine de personnes. Et puis 50 km plus loin, le long du fleuve, il y avait un autre village, mais ils parlaient pas la même langue. Et donc, les gens, les jeunes qui souhaitaient se marier, étaient obligés de se marier dans le village parce qu'il fallait qu'ils trouvent une jeune fille dont ils parlent la langue. Et s'ils allaient chercher une jeune fille dans le village voisin, eh bien, ils ne parlaient pas la même langue, c'est impossible. Et donc, il y a eu énormément de cas de consanguinité. Il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants qui, malheureusement, étaient atteints de problèmes physiques très graves. Il y avait une proportion, entre autres, de Mongoliens qui était très très grande dans ces milieux-là à cause des consanguinités. Donc la fin secondaire, je dis simplement ce que dit saint Thomas sur ce sujet, passons rapidement. La fin secondaire du mariage consiste dans l'apaisement de la concupiscence. J'ai expliqué. Cette fin serait frustrée si chacun pouvait épouser sa parente. Les passions de la chair pourraient alors se donner libre carrière si on n'interdisait pas le mariage aux personnes que les liens de famille obligent à vivre ensemble dans la même maison. C'est pourquoi, selon les lois humaines et les canons de l'Église, les personnes parentes à certains degrés ne peuvent se marier entre elles. De tout ce qui précède, on peut donc conclure que la consanguinité est, suivant les degrés, un empêchement de droit naturel, un empêchement de droit divin ou un empêchement de droit positif. Alors, donc je passe sur les différents degrés de consanguinité. Encore une fois, les choses ont été modifiées par le droit canonique de Saint Pilice. Donc l'Église, simplement, vous devez savoir, a défendu et permis, selon les circonstances, de contracter mariage dans certains degrés de parenté, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale. Donc, s'il n'y avait pas ces interdictions, la possibilité pour ces personnes d'une même famille d'entretenir des relations charnelles aurait amené un grand débordement des passions mauvaises. Ça entraîne des gros problèmes, surtout dans les milieux qui se marient exclusivement entre eux. C'est le cas, par exemple, dans la religion juive. Un juif n'épouse jamais quelqu'un qui n'est pas de la même religion que lui. Et dans certains villages, surtout au 19e et au début du 20e siècle, ou même au 18e siècle, il y a eu des tas de problèmes, justement à cause de relations de consanguinité, parce que les possibilités de se marier avec des jeunes filles, pour les jeunes hommes juifs, étaient très limitées, parce qu'ils ne pouvaient se marier qu'avec des jeunes filles juives. Et donc, il y a eu des tas de problèmes d'inceste, de consanguinité, avec des conséquences très graves. Donc, pour l'affinité, c'est la même chose, j'en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. Voilà ce que saint Thomas donne comme définition de l'affinité. Une personne unie à une autre par le même mariage ne fait pas partie de la même lignée, mais s'y rattache par un lien extérieur. Ce lien d'un genre spécial s'appelle l'affinité. Hein, c'est-à-dire, c'est après la mort d'un des deux époux, il y a des relations d'affinité avec les membres de la famille de la veuve, de la personne décédée, pardon. Donc le veuf, dans certains cas, ne peut pas se marier avec les membres de la famille directe de son épouse, même si elle est décédée, justement à cause d'un empêchement qu'on appelle l'empêchement d'affinité. Donc c'est un empêchement qui existe donc entre un époux et les parents, par exemple, de son épouse. Là encore une fois, ce sont des cas canoniques qui ont été, les règles ont été modifiées par le pape Saint Pilice. Donc l'affinité subsistera donc toujours et ne disparaîtra pas une fois le mariage dissous par la mort de l'un des deux époux. Donc l'affinité, dit saint Thomas, qui provient de l'union charnelle, est donc aussi produite par la fornication qui est également une union charnelle. Donc c'est une affinité qui vient d'une relation illégitime. Alors, l'affinité, attention, ne résulte pas des fiançailles, parce que les fiançailles n'est pas mariage. Les fiançailles ne sont pas un vrai mariage, mais préparation au mariage, donc elles ne sont pas cause d'affinité comme le mariage. Bon, alors, il en résulte quelque chose qui ressemble à l'affinité qu'on appelle l'honnêteté publique. L'honnêteté publique, c'est des cas d'affinité, des cas de consanguinité dans des cas de concubinage. Donc, c'est des cas canoniques très spéciaux dont je vous ai déjà un peu parlé, dont je ne reviens pas là-dessus. Hein. Alors, je passe sur toutes ces choses-là. Parce que ce sont des points purement canoniques. Simplement, il faut que vous sachiez que l'affinité est donc un empêchement de mariage, et c'est le devoir du prêtre de vérifier qu'il n'y a pas des cas de ce genre. Il vérifie tout ça dans l'enquête matrimoniale qu'il doit faire lorsqu'il prépare les gens au mariage. Donc, les degrés d'affinité suivent des lois canoniques qui ont changé au cours des temps. Je passe donc sur beaucoup de choses qui ne sont des trucs purement, des choses purement canoniques. Donc, encore une fois, saint Thomas va parler des différents liens d'affinité, des différents degrés d'affinité, mais ces choses ont été modifiées, donc pratiquement j'en parle pas ici, parce qu'on suit maintenant le nouveau code de droit canonique de Saint-Pie X de 1917. Alors, toute œuvre de chair, dit saint Thomas, en dehors d'un vrai mariage, est péché mortel, et un mal que l'Église s'efforce de prévenir par tous les moyens. Donc, à l'Église incombe le devoir de séparer ceux qui ne sont pas mariés légitimement, et principalement les parents par consanguinité ou par alliance, qui d'ailleurs, en entretenant des relations charnelles les uns avec les autres, commettent toujours un inceste. Donc, attention, ne pas vous embarquer dans toutes les horreurs qui sont maintenant de plus en plus acceptées avec les théories du genre, les PMA, les GPA, toutes ces horreurs. Et un catholique doit se garder toutes ces choses-là. Le mariage entre personnes alliées par mariage et les parents, alliés par sang, est illicite. Donc, on peut attaquer la valeur d'un tel mariage. C'est pour ça qu'il y a des lois canoniques qui précisent bien les choses. Je vais arrêter là. Nous en sommes à la question 56. Donc, je pense que le prochain cours, je pourrai, si Dieu veut, terminer le traité sur le mariage. Donc, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.